Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à Libre Ensemble. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité comme chaque samedi soir. Jacques Nizin à la technique qui, pour paraphraser Guitry, est contre les femmes, tout contre. Vous allez comprendre pourquoi. Catherine Axe au micro pour débattre d'un sujet important qui va mettre aujourd'hui la femme à l'honneur. On va parler IVG, interruption volontaire de grossesse. En 1990, une loi historique était votée au Parlement dépénalisant partiellement l'avortement. Après 30 ans de lutte, c'est une victoire pour les féministes et les progressistes. Cependant, l'IVG reste inscrite au code pénal comme un crime contre l'ordre des familles et le monde public. 25 ans après, faut-il relancer le débat d'une sortie de l'IVG du code pénal et pourquoi? Voilà de quoi nous allons débattre avec mes deux invités. Bérangère Marquez Pereira, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sociologie politique à l'ULB et présidente de l'Université des femmes. Vous allez nous raconter et nous expliquer ce que c'est. Georges Soumenkoff, bonsoir.
Bonsoir.
Gynécologue, obstétricien, je vais y arriver. Vous avez participé à la lutte historique pour la dépénalisation de l'avortement aux côtés de Willy Peirce. Alors, à l'occasion de la journée des droits des femmes, ce 8 mars, le CAL, le GACEPA et le Conseil des femmes francophones relancent leur revendication d'une sortie de l'avortement du code pénal. Georges Soumenkoff, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette lutte-là, jadis? Et qu'est-ce qui a motivé votre engagement aux côtés de Willy Peirce? Racontez-nous l'histoire de tout ce qui s'est passé à ce moment-là.
Ça commence avant. Je devais avoir une dizaine d'années. Mes deux parents étaient médecins et ils ont accueilli une femme espagnole, je crois, qui venait de se faire avorter. Elle a dormi chez nous et c'était... Voilà, ça c'était un premier contact, mais...
Et c'était à l'époque étonnant.
Voilà, à l'époque, c'était étonnant, mais... Au même moment, mon papa m'a envoyé chez la voisine d'en face pour lui faire des piqûres de morphine, parce que c'était déjà les premiers pas de l'euthanasie, mais c'est une autre histoire. Et puis, il y a eu les études de médecine, et je pense qu'à l'époque, on était tous intéressés. C'était aussi une belle époque pour le MLF. Et lors de ma dernière année de médecine, Willy Peirce a été jeté en tôle. Et les étudiants de dernière année ont réagi. Il y en a qui ont fait une grève de la faim, nous on a été collés des affiches. Et voilà, ça a été, je pense, le début de l'engagement. Ensuite, j'étais jeune médecin et j'étais travaillé dans les plannings et j'ai appris à faire des IVG, etc. Je suis parti en Algérie. Parce que j'étais aussi, je voulais pas faire mon service militaire, et donc là, je me suis occupé des services de femmes. Et j'ai fait des avortements, et j'ai jamais eu autant la trouille que là-bas parce que c'était beaucoup plus interdit qu'ici. En entrant, j'ai fait la gynéco, j'ai travaillé chez Willy Peirce, et puis on était tous dans le même bain. Ça veut dire qu'après avoir travaillé chez Willy, j'ai travaillé à Saint-Pierre, chez Pierre-Paul, chez Pierre-Olivier Hubinon, qui était à sa manière très très mouillé aussi, où on faisait énormément d'IVG. Voilà, et puis ça a continué. Ça veut dire que, en fait, quand il y a eu les procès, puis quand la loi est passée, pour nous ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'on avait l'impression que c'était peut-être plus facile, mais on en faisait.
Qu'est-ce qui vous avait ému à l'époque? C'était la détresse de ces femmes? C'était vraiment un combat qu'il fallait mener? Et qu'est-ce qu'à l'époque, les médecins qui étaient pour l'avortement réclamaient et demandaient?
Mais je pense que les médecins qui sont pour l'avortement ont toujours demandé la dépénalisation totale de l'avortement, c'est-à-dire la sortie du code pénal. C'est ce qu'on a toujours demandé. Mais non, la détresse des femmes est une chose. Moi, je suis gynéco, donc je ne vois que des femmes. Mais je pense que, plus que leur détresse, ce qui m'avait frappé, c'était leur détermination. Quand une femme veut un enfant, elle est prête à se faire inséminer par n'importe quel réfugié afghan qui sort de Lampedusa. Quand une femme ne veut pas son enfant, elle veut pas son enfant. Et je trouve que c'est son droit. Et voilà, c'est ce que je pense toujours. C'est vraiment le droit des femmes, c'est à elles, et voilà.
Mais alors expliquez-nous, quelle est la différence? Donc l'IVG est dépénalisé, mais reste dans le code pénal. Sur le terrain, ça veut dire quoi exactement?
Pour moi, ça change rien, en fait, parce que je pose pas de questions. On devait respecter un délai légal d'une semaine. On devait demander l'accord. À Saint-Pierre, il y avait une commission qui statuait, enfin une assistante sociale et un médecin qui disait oui ou non, selon ce que les femmes racontaient. Je crois que dans certaines autres universités, ça existe toujours. Il y a une commission pour décider, à l'UCL pour ne pas le cacher, ils font des avortements, mais il y a une commission qui décide. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Si la femme vient, c'est qu'elle a déjà assez de...
Réfléchis à la question.
Et assez de courage pour... Qui va venir demander une interruption de grossesse s'il n'a pas envie?
Oui.
Donc la vie du psychologue, la vie de, de l'assistante sociale, personnellement, moi,
c'est pour se donner bonne conscience, vous pensez?
Si la femme me le demande, je le fais. Si je peux, si je sais le faire.
Alors, Bérangère Marquez Pereira, pourquoi avez-vous englobé cette lutte-là, en tout cas dans vos recherches et votre travail? Pourquoi ça vous touchait particulièrement?
Quand je suis sortie de l'Athénée, et plus exactement quand j'étais déjà à l'université, à 19 ans, un jour, j'ai vu traîner sur le bureau de ma mère le numéro qui avait été publié chez Mars Perrot, Libération des femmes années zéro, c'était en 1970. Et je me suis accaparée de ça, j'ai tout lu. Et puis là-dessus, j'ai commencé à fréquenter la Maison des femmes de Bruxelles, puis des groupes de dépénalisation d'avortement. J'ai été au GRIF, et puis à l'Université des femmes. Et voilà, j'étais embarquée dans le féminisme. Et la seconde vague du féminisme partout en Europe occidentale, il y avait une revendication qui était centrale, c'était le droit à l'avortement. Et voilà comment je me suis intéressée d'abord politiquement, en tant que femme féministe, laïque, de gauche. Et puis... Bon, j'ai terminé mes études de Sciences Po et j'ai eu envie de faire une thèse. Et alors, comme tous les étudiants, au début, on a des sujets hyper larges qui sont absolument infaisables. Et donc, j'ai réduit sur un enjeu qui me semblait tout à fait central pour tout ce qui était émancipation des femmes, c'était la liberté reproductive. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute un des points centraux pour acquérir une véritable individuation, d'être un sujet à part entière.
Et aujourd'hui, vos recherches aboutissent à quel bilan, 25 ans après la lutte dont on vient de parler? Est-ce que la société est encore accusatrice, culpabilise encore les femmes? Est-ce qu'on a raté quelque chose là dans le domaine de l'émancipation? On peut dire ça comme ça?
Je crois qu'il y a une culpabilisation des femmes qu'on pourrait noter au fait que je ne suis pas sûre qu'on en parle volontiers. Alors, je ne dirais pas que ça reste un tabou à l'heure actuelle, parce qu'il a été réellement brisé, mais les représentations collectives n'ont pas banalisé l'avortement, loin s'en faut. Et on a d'ailleurs tout fait pour que ce ne le soit pas. L'état de détresse, c'était s'assurer d'une manière ou d'une autre qu'on ne banalisait pas les choses. Et est-ce qu'on a raté quelque chose dans l'émancipation? Mais ce que je crois, c'est qu'en fait, ce mouvement de revendication du droit à l'avortement, c'était en réalité, et je crois pour toute l'Europe occidentale, c'était en réalité une sorte de mouvement d'amplification de ce qu'était la citoyenneté. Puisque, au fond, ce qu'on réclamait au départ, c'était la libre disposition de soi. Et une extension de la libre disposition de soi. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un droit civil? Alors, l'extension, c'était... arriver à en faire un droit social. Bon, on a eu des remboursements de la sécurité sociale, il y a des financements des hôpitaux, il y a des centres extra-hospitaliers. Certes, on n'est pas si mal loti en Belgique comparé à d'autres pays, à beaucoup de points de vue, mais on a sans doute raté le fait de l'assumer jusqu'au bout.
C'est-à-dire que ça reste un délit de mœurs.
Parce que c'est quand même encore dans le code pénal. On lève l'infraction sous condition. Et une des conditions, c'est les 12 semaines. Dans d'autres pays, c'est 15 semaines quand même. Et puis, l'autre condition, c'est la notion d'état de détresse qui, à mon sens, ne veut rien dire. C'est plutôt la question de la détermination, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Soumenkoff. Et l'autre concession qui avait été faite, c'était la commission d'évaluation de la loi, hein, qui permet qui était une façon pour les opposants d'éventuellement pouvoir remettre la loi en cause. Mais donc, on a raté, je crois, la prise en charge de ce mouvement de mobilisation en tant qu'amplification de la citoyenneté. Ce qui ne veut pas dire que la mobilisation ne peut pas se faire, hein, même à l'heure actuelle. Mm-hmm. Hein.
Parce que Georges Soumankoff, on est quand même loin de ce que Willy Peirce réclamait, c'est-à-dire une mesure de santé publique aujourd'hui sur le terrain.
Ah. Mais Willy Peirce, dans une phrase sur trois, il parlait de la santé publique. Et il n'a pas tort, c'est vrai. Donc si on prend la chose en tant que médecin, c'est une mesure de santé publique. On ne peut qu'être d'accord avec lui. Par contre, ce qui s'est passé lors des procès, lors de la loi dépénalisant partiellement, c'est que il y avait une trentaine de médecins qui avaient été condamnés, et que là on était sorti du trou et qu'on avait quelque part un passe-droit, ce qui ne nous empêchait pas de continuer d'en faire et d'en avoir fait avant quand c'était interdit. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le côté dépénalisé. L'avortement a été dépénalisé en France sous Simone Veil, grâce à Simone Veil notamment.
En quelle année vous...
75, si mes souvenirs sont bons.
Petite précision.
Je pense, oui. Nous, on recevait à Saint-Pierre ou dans les plannings, on recevait des patientes françaises parce qu'elles ne trouvaient personne pour se faire avorter. Elles arrivaient chez nous, c'était interdit.
C'est dingue, oui. Donc, c'est un. Voilà.
Voilà, alors c'est. Et donc, mais je suis peut-être pas comme mes confrères, mais moi j'ai toujours trouvé que ça valait le coup d'en faire et que zut et basta, si on me le demandait, je le faisais. C'est ce que je fais encore maintenant.
Donc si ça sort du code pénal, ça ne changera pas grand-chose pour vous sur le terrain. Par contre, pour vous, Madame Marquez Pereira, c'est sans doute plus que symbolique. Est-ce que cette sortie aura des conséquences concrètes pour vous?
Moi, je crois que non seulement c'est symbolique, et il faut dire que c'est important, le symbolique, outre les conséquences concrètes. Parce que le symbolique, c'est pas du vent. C'est des représentations collectives. Et ces représentations collectives, elles sont quand même fondées sur quelque chose qui sont des pratiques sociales. Et donc, par exemple, la pratique médicale de l'avortement, c'est une pratique sociale. Au moment de l'illégalité de l'acte, c'était quand même une pratique aussi politique, finalement, c'est pas rien. Et puis, c'est des normes sociales. Et avec la loi, et même déjà après 73, au moment où il y a une issue à l'affaire Peirce, la norme positive qui s'impose, c'est la contraception. Et à l'époque, on considère, dans les représentations collectives, plutôt progressiste, hein, que l'avortement provoqué reste quand même un échec. Mais si c'est à répétition, ça reste une récidive. Alors le terme récidive, c'est quand même assez connoté, je dirais. Donc, l'idée de sortir du code pénal est tout à fait fondamentale, parce que c'est sortir de la logique du délit, d'une manière ou d'une autre, parce que si on est hors condition, hors délai, on est dans le délit. Si on le pratique en Belgique. Donc, ça veut dire aller à l'étranger. Donc,
rappelez-nous.
Donc, ça, c'est une des conséquences concrètes. Et on voit bien à quel point le symbolique et le concret sont tout à fait liés et imbriqués l'un à l'autre.
Rappelez-nous pour ceux qui ou celles qui ne le sauraient pas, hors délai, c'est combien de temps?
Donc, ici en Belgique, c'est 12 semaines, hein, si je ne me trompe
je
pas.
Je ne sais pas.
Mais ça, le sais mieux.
Voilà, ne se pose pas genre de questions.
C'est 12 semaines ici en Belgique. Non, dans d'autres pays, c'est 15 semaines, je pense.
Dans d'autres pays, c'est 15 semaines.
Mais
moi, je crois aussi, parce qu'on a parlé donc du symbolisme, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que énormément de femmes qui viennent demander une interruption de grossesse ne savent pas que c'est dans le code pénal. Pour elles, c'est normal.
Disposer de son corps.
Et je suis d'accord sur l'idée de l'avortement qui doit être suivi de la contraception. Moi, une femme peut faire plusieurs avortements à la suite. Ça, Willy Peirce n'aurait pas aimé que je le dise, par contre. Mais c'est son droit. C'est son droit, et c'est son droit de pas aimer la pilule, et c'est son droit de pas vouloir avoir un corps étranger dans l'utérus comme on fait avec les chamelles. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord.
Moi, je crois que ce qui est important, c'est que de ne d'essayer dans la pratique de ne pas associer des connotations négatives. Absolument. À l'avortement. Mmh. Parce que ça, c'est saper l'autonomie des femmes dès le début, avant même qu'une réflexion puisse s'imposer sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, etc. Donc c'est ça qui est important. En ce sens-là, le symbolique est particulièrement concret. Et il est d'autant plus concret que quand même, en termes de conséquences matérielles, dans une période de crise comme la nôtre, hors délai, c'est pour quelles femmes? C'est celles qui n'ont pas accès à une information, c'est celles qui sont discriminées, et c'est qui à l'heure actuelle, outre celles qui sont précarisées, je dirais, dans la normalité. Il faut penser aux migrantes, il faut penser aux femmes qui demandent le droit d'asile, etc. Donc, c'est pas rien à l'heure actuelle.
En quelque sorte, vous voulez dire que lorsque l'accès à l'IVG est aisé, ça signifie que bon nombre d'autres droits des femmes sont aussi respectés. Et s'il est mis en péril ou décrié, c'est ce qu'on dit là, hein, s'il est négativisé, cela démontre que les droits des femmes, en général, sont fragilisés. Ça fait partie d'un tout, en fait.
Absolument. Et je crois que sortir l'avortement du code pénal, c'est à la fois une mesure d'égalité sociale et une mesure d'égalité entre femmes et hommes.
C'est votre combat à l'Université des femmes?
Oui.
Celui-là, en tout cas. Expliquez-nous en quoi retourne l'Université des femmes.
Alors, l'Université des femmes, c'est un organisme d'éducation permanente qui a été créé, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 82, mais qui a été héritière partiellement des cahiers du GRIF. Et on est axé sur, au fond, des activités d'éducation permanente, donc en termes de recherche et de formation et d'enseignement. Alors, comment l'idée est venue, outre les péripéties, c'est que, en fait, on se rendait compte que dans le monde anglo-saxon, tout ce qui était études concernant la condition des femmes, ce qu'on appelle à l'heure actuelle la notion de genre, etc., était prise en charge, notamment par des académiques, donc par les universités. Il y avait des départements qui commençaient à se développer. Et en francophonie, et en Belgique, c'était pas terrible, hein, pour ne pas dire qu'il y avait quasi rien, si ce n'est peut-être des individus, des femmes en l'occurrence, qui à travers leurs cours ou leurs recherches faisaient quelque chose. Mais donc, c'était pas lié à ce manque. Et on le pallie par des publications, et notamment on a publié dernièrement un numéro de chronique féministe sur les droits reproductifs et sexuels, l'éternel combat. Et on y est toujours, hein. Et d'autres publications encore, et des formations, soit ponctuelles, soit ce qu'on appelle les formations longues, qui se déroulent entre septembre, octobre, jusqu'à mars, toutes les semaines quand même, c'est pas rien, puis on organise des journées d'études. Donc tout ça sur des enjeux qui concernent l'émancipation des femmes, et finalement, pour le dire vite, en gros, les droits de citoyenneté des femmes.
Allez, une belle voix de femme pour appuyer ce dont nous venons de parler, Alani avec Roses and Wine. On ferme les yeux, on se détend et on profite, c'est superbe.
You brought roses and wine, then ran out of time, where you going to? Said you'll be back at nine, a comfort to my mind, am I a fool? Do you really care, my lover, my friend? Then stay with me till the bitter end. Or is this our last goodbye? No more roses and wine with you. Save me. So why am I sad alone? with more roses and wine and some candy too. Go give them to your wife, keep her satisfied, 'cause she loves you.
Voilà, c'était Alani, Roses and Wine. Vous écoutez Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité avec nos invités Bérangère Marquez-Pereira, professeur de sociologie politique, et Georges Soumenkoff, gynécologue obstétricien. Nous parlons de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors, Georges Soumenkoff, aujourd'hui en Belgique, quelles sont les difficultés sur le terrain rencontrées par les femmes? Est-ce qu'il y a un manque de médecins qui pratiquent l'avortement? Est-ce qu'il y a un manque de formation pour pratiquer ces avortements? Où en sommes-nous?
Je suis plus vraiment dans le circuit, mais je pense qu'il y a un manque de médecins, parce que je pense que les jeunes gynécos, ils aiment pas faire ça. Moi, j'aurais voulu relancer un centre d'interruption de grossesse tardive.
Est-ce qu'on apprend ça, d'ailleurs, en gynécologie?
Oui, quand même.
À l'ULB.
Mais peut-être ailleurs aussi, parce que faire un curetage, faire une aspiration. Mais je pense que ça intéresse moins mes jeunes collègues, le plus souvent. Et alors, on se retrouve avec les vieux. Je dis, on voulait relancer un centre d'interruption de grossesse tardive. Et les jeunes qui s'occupent du planning dans les hôpitaux de l'ULB disaient, mais non, allez, on va aller en Hollande, on va avoir des ennuis encore. Et donc, voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est un désengagement de la part des jeunes médecins. Il faut pas, je suis sûr qu'il y a des jeunes médecins qui sont prêts et qui se lancent là-dedans aussi. Et là, je dis, je suis un peu en dehors de la course. Mais c'est ce que je ressens avec des collègues à qui je travaille. Ils sont plus timorés que nous, on va dire.
Et quel est, Bérangère, le bilan qu'on peut faire, à part chez nous, en Europe aussi, dans les autres pays? Où en est la lutte?
Finalement, facile. La Belgique, comparativement, bien sûr, n'est pas si mal située, mais non plus, n'est pas non plus hyper bien située. Parce que regardez, quand même.
Au Luxembourg,
Luxembourg
a sorti du code pénal en novembre 2014.
Du code pénal. Le Luxembourg n'est pas beaucoup plus à gauche progressiste que la Belgique. Donc, je crois qu'il nous faudra un gouvernement arc-en-ciel qui ait de la volonté politique, hein, parce que ça suffit pas pour qu'il y ait une sortie du code pénal. Ceci dit, bon, la France a supprimé l'état de détresse en août 2014, si mes souvenirs
Par
sont
contre,
bons.
Oui, on est encore loin en Pologne, en Hongrie,
Mais
Italie,
voilà,
Grèce,
voilà. Alors,
Irlande,
non,
Chypre, c'est...
Donc ça, c'est des pays qui interdisent,
bien sûr,
qui
oui,
dans
on...
la pratique. Bon, mais il y a eu le cas espagnol il n'y a pas si longtemps,
voilà. L'Espagne,
où
sort.
Le gouvernement Rajoy.
C'est une exception presque. Oui.
Ah oui, mais elle est importante. Il
c'est
a
vrai.
Essayé de revenir à une loi qui était de type franquiste, ni plus ni moins. Mm-hmm. Et ce qui est important à mettre en avant, c'est que c'est quand même une mobilisation et nationale et internationale qui a mis le holà.
Oui. Ça, qui mobilisation veut dire... citoyenne.
Citoyenne,
donc ça marche.
De grande ampleur. Mm-hmm. Et ça veut dire que donc les mobilisations qui sont finalement transnationales,
c'est en janvier 2014,
actuelle,
hein, ça, oui.
sont importantes. Et elles sont d'autant plus importantes, je dirais, qu'on est quand même face à quoi? À un activisme anti-IVG, anti-avortement, extrêmement fort, qui est mené par une organisation, elle aussi transnationale, faut pas l'oublier, l'Église. C'est l'organisation par excellence transnationale. Et elle pèse dans les organisations internationales ou supranationales. Il faut voir l'activisme qui a été développé depuis 1995, depuis la conférence internationale de Pékin sur les droits des femmes à l'ONU. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit cet activisme se développer. Et par exemple, au Parlement européen, ils n'hésitent pas à faire du lobbying... vraiment extrêmement dur. Hein. Oui, oui. Donc, je crois que il faut avoir une vigilance à l'heure actuelle qui soit proactive et pas simplement être sur la défensive. Et moi, j'irais presque jusqu'à dire que ceux qui pensent que réclamer à l'heure actuelle le droit, la sortie du code pénal, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Eh bien, moi, je dis non, la boîte de Pandore, elle est ouverte par cet activisme anti-IVG. C'est déjà ouvert. Et ce qui est irresponsable, c'est de ne pas y réagir. Et on a un bel exemple quand même de lutte qui a fonctionné, même si il y a toujours des risques de recul. C'est l'exemple espagnol. Donc, je crois que là...
Mobilisation importante. Et alors, vous parliez du symbolique. C'est tout un symbole aussi, puisque donc à l'occasion de la Journée des droits de la femme, ce 8 mars 2016, c'est cette semaine, on va donc se mobiliser et se battre. C'est important, ça aussi, symboliquement, de mettre à cette date pour célébrer l'ensemble des droits des femmes.
Oui, c'est toujours important. Ce que je crois que pour le 8 mars, ce qui est important, c'est deux choses, je dirais. À la fois, d'avoir sur la scène publique des revendications claires, et d'autre part, et en même temps, donc l'un n'est pas exclusif de l'autre, la présence des voix des femmes, c'est-à-dire des organisations féministes. Ça me semble tout à fait important. Donc d'avoir et des revendications féministes et les organisations féministes qui puissent s'exprimer. Pas uniquement le 8 mars, bien sûr, ça va de soi. Mais je crois que, bon, puisque le symbolique n'est pas dérisoire, ce n'est pas que du vent, il faut aussi une présence sur l'espace public.
Médicalement, Georges Soumenkoff, c'est aussi permettre aux femmes, cette interruption volontaire de grossesse, de prendre soin de leur corps. On dénombre beaucoup d'avortements qui finissent très mal dans le monde aujourd'hui. C'est une véritable catastrophe, ça, en tant que médecin.
Oui, mais en Belgique, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Quand j'étais jeune médecin, jeune gynéco, ça arrivait. Ça arrivait parce qu'il y avait des faiseuses d'anges, parce qu'il y avait des tricoteuses. Mais maintenant, moi, je n'en ai plus
vécu.
C'est
plutôt ailleurs dans le monde.
Oui.
Georges Soumenkoff, vous serez aux côtés des femmes le 8 mars pour défendre cette cause-là?
Dans le cœur, certainement, mais je pars en Afrique.
Ah, ben voilà, vous allez sûrement être bien, bien utile là-bas aussi. Allez, on rappelle, si vous désirez, parce que l'émission touche à sa fin, si vous désirez réagir et soutenir l'action, alors quelques pistes, Twitter, hashtag IVG hors du code pénal en un mot. Facebook, sur le compte du Centre d'Action Laïque, vous allez chercher un petit logo mauve IVG hors du code pénal et puis vous partagez massivement. Ou alors sur notre site www.libreensemble.be pour notamment réécouter le podcast de cette émission. Voilà ce qui referme ce numéro de Libre Ensemble. Ben merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis et puis à mes invités d'avoir accepté cette invitation. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Restez branchés sur la première pour la suite des programmes. À très bientôt et belle soirée à tous.
Merci.